9h-11h, on fait le tour de la question avec vous, François Claus.
Et on va s'interroger sur... Allez, on va tourner, on va dire une page d'histoire, parce que parfois l'histoire, elle nous donne des clés pour comprendre le présent et peut-être appréhender l'avenir, même si le copier-coller ne fonctionne pas toujours. Si je parle d'histoire, je vais parler de gilets jaunes, car que n'a-t-on entendu ces dernières semaines ? Poujadisme, sans culotte, communard, ligue de 1934, grande grève de 47. L'idée est de tourner un peu cette page de l'histoire sociale française qui est assez marquée, qui est assez mouvementée, qui est beaucoup regardée d'ailleurs dans le monde parce qu'elle a une forme de spécificité pour mieux comprendre à quelques heures d'un nouveau rassemblement prévu par les Gilets jaunes autour des Champs-Élysées, à quelques heures également des vœux présidentiels qui vont être très écoutés et très commentés dans le message et la réponse du pouvoir central à celle des Gilets jaunes en révolte. Bref, comprendre ce qui s'est passé en France dans l'histoire, c'est nous allons essayer de faire le tour de la question jusqu'à 11h. Heureux d'accueillir dans ce studio deux grands spécialistes de l'histoire sociale française, de l'histoire des révoltes. Gérard Noiriel, vous êtes spécialiste de l'histoire populaire. Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce 31. Et puis, vous l'avez entendu également au téléphone, ici et là, mais là, il va avoir le temps de s'exprimer. Il est en studio avec nous. Michel Pigenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1. Et donc, votre regard sur cette histoire sociale française pour éventuellement avoir quelques clés pour comprendre les gilets jaunes nous intéresse grandement. Gérard Noiriel, est-ce que, pour commencer, ces gilets jaunes resteront, pensez, dans l'histoire, vous, l'historien, qui êtes obligé de scruter là, pour le moment, le présent?
La difficulté pour un historien, c'est de prévoir l'avenir. Hein. Vous savez, on peut effectivement analyser le passé pour éclairer, je pense, le présent, comprendre d'où viennent les mouvements, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de différent. Mais quant à dire ce que ça, l'avenir, ça me paraît difficile. Enfin, je veux dire.
Non, mais sans regarder l'avenir, on a le sentiment depuis le 17 novembre qu'on vit, enfin, en tant que journaliste, en tant que citoyen, une période qui restera, quoi qu'il arrive.
Oui, je pense aussi que ce mouvement est caractéristique des mutations de la vie politique, de l'espace public, des relations qui lient les médias, le pouvoir politique, les citoyens. Je pense que c'est effectivement une illustration des transformations qui se sont produites récemment dans la société française, et pas que française d'ailleurs. On pourrait faire le lien avec le Brexit, avec d'autres choses.
Absolument, et on va tenter de le faire. Michel Pigenet, les raccourcis médiatiques, souvent entre, j'évoquais toutes les références qu'on a entendues ces dernières semaines, doivent quelque part vous énerver un petit peu, vous l'historien, parce qu'elles sont un peu caricaturales, et on va essayer justement de démêler pendant cette heure les références qui sont parfois justes ou parfois incongrues.
Oui, mais écoutez, en même temps, l'historien se réjouit qu'on aille chercher dans l'histoire des références, parce que ça permet, en effet, à la fois d'éclairer le présent et puis peut-être, au passage, de rappeler quelque chose sur certains événements passés, c'est certain.
Cette histoire des mouvements sociaux français, je suis moi estomaqué de l'impact qu'elle a aujourd'hui au niveau international. Alors bien sûr, on est à l'heure de la mondialisation, de la révolution numérique, mais partout, on scrute cela parce que l'histoire sociale et l'histoire des révoltes en France, elle est quand même très singulière.
Elle est sans doute singulière dans la mesure où ce pays a été un pays de révolution répétée, dans la mesure où la République, si on prend le cas du régime, en France, ça n'est pas simplement autre chose que la monarchie. C'est aussi, et c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution depuis 1946, c'est une république qu'on a eu besoin de qualifier comme démocratique et sociale. Et quand on a inscrit ça, ça voulait dire qu'on prenait en compte toute une série d'aspirations qui n'étaient pas seulement celles d'une organisation des institutions, qui était aussi une promesse.
Gérard Noiriel, vous voyez également, vous, une spécificité française à ce mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre?
Oui, je crois qu'il y a une tradition française forte. On sait par exemple aussi ce que Tocqueville appelait la passion pour l'égalité, enfin cette question de l'égalité, donc la lutte contre les injustices, on en reparlera certainement, mais c'est un élément très important dans le mouvement des Gilets jaunes, s'inscrit dans une longue tradition. Et puis effectivement, que là où d'autres pays parviennent à négocier, à trouver des compromis dans la tradition française, il faut remonter au sommet de l'État, et ça se traduit souvent par des formes de violence ou des révolutions, ou après même, si on prend 36, si on prend 68, etc., enfin des événements qui marquent par leur violence et leur degré aussi massif. Hein,
c'est mais ce besoin que vous évoquez de remonter tout en haut, oui. il est psychanalytique depuis qu'on a coupé la tête d'un roi, il est inscrit dans un patrimoine culturo-génétique français.
Non, moi je pense que c'est aussi lié à la logique institutionnelle qui s'est fixée avec la République française, c'est-à-dire la nation une et indivisible, la destruction des corps intermédiaires par la Révolution, la difficulté de les reconstituer. Quand on lit Durkheim, par exemple, le fondateur de la sociologie française, il écrit explicitement dans une préface de sa thèse sur la division du travail social qu'il faudrait rétablir les corps intermédiaires, que le syndicalisme est trop faible en France, etc. Donc tous ces rouages-là...
Et ça, Durkheim, déjà, il l'écrit quand
Ça, c'est à la fin du 19e siècle.
Voilà, au moment où il est sur un rond-point, là, voilà. Du côté de Montargis, voilà. Durkheim, en écrivant cela, Michel Pigenet.
Alors oui, mais ce qui se passe, c'est que d'une certaine façon, la République avait acclimaté à cette idée qu'il y avait des corps intermédiaires nécessaires, il y avait possibilité d'une représentation. Or, ce que ce mouvement, en même temps, met en question, c'est qu'il se développe hors corps intermédiaire, et d'une certaine façon, pour une part, contre ces corps intermédiaires qui semblent ne plus être en mesure de jouer le rôle qui est le leur. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui nous renvoie, en effet, très loin, et qui rapproche davantage ce qui s'est passé là, ce qui se passe encore en ce moment, à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle que dans ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle.
C'est-à-dire pré-révolution française, dites-vous, voire même Moyen-Âge. On a parlé de jacquerie numérique là aujourd'hui, mais on a employé le mot de jacquerie qui renvoie au Moyen-Âge.
Alors je crois que Gérard Noiriel s'est davantage aventuré vers ces périodes anciennes, mais je dirais en tout cas d'avant l'existence d'un espace public où le débat et la confrontation peut se dérouler.
Et dans ces corps intermédiaires, on a vu les dernières revendications qui concernaient l'un de ces corps intermédiaires, les médias, nous-mêmes, ce week-end, qui ont, et c'est tout le paradoxe, en partie aidé à l'embrasement de cette révolte et qui aujourd'hui se retrouvent contestés en tant que corps intermédiaires aussi. Vous voyez, le débat est passionnant, on est remonté là au 18e et on va détailler tout ça. On fait le tour de la question, n'hésitez pas vous, 39-21, Marlène a apporté votre pierre au débat.
Oui, 39-21, 50 centimes la minute, c'est le standard d'Europe 1, mais aussi les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 sur Twitter et la page Facebook d'Europe 1. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Ce matin sur Europe 1, on parle des Gilets jaunes, mais du point de vue des historiens, peut-on les comparer aux autres révoltes de l'histoire, les Gilets jaunes? On fait le tour de la question jusqu'à 11h avec vous, François Claus, et vos invités, deux historiens, bien évidemment, Gérard Noiriel, spécialiste de l'histoire populaire, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1.
Ah oui, Marlène, car à défaut de prédire l'avenir, l'histoire peut nous aider à comprendre le présent et peut donner quand même quelques clés. Je vous propose, messieurs, d'écouter ce témoignage recueilli par un des reporters d'Europe 1. Nous étions fin novembre du côté de Marseille. Nous sommes là dans une revendication très claire. Les pauvres se rebellent.
Il n'y a rien qui va. J'arrive plus à vivre. Moi, je suis en train de mourir. Moi, je paye mon loyer, mon électricité, mon gaz. Si j'ai pas des amis qui m'aident de bœuf, ben, je suis mort. Hein.
Combien vous touchez par mois?
900 euros, pas plus. Mais une fois que j'ai payé un loyer de 500 euros, qu'est-ce qu'il me reste? Il y a les étudiants, ils n'arrivent plus. Il n'y a plus rien qui arrive. Moi, je marche beaucoup dans Marseille. Je suis marseillais. Et je parle avec eux, les jeunes, tout. Ils disent, on n'arrive plus. Même eux, ils n'arrivent plus. Il n'y a plus personne qui arrive.
Alors le mouvement parti d'une rébellion contre une taxe se transforme très vite en revendication pour plus de pouvoir d'achat. Dans l'histoire sociale française, les rébellions contre ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture sociale, c'est quand même une constante, Gérard Noiriel.
Oui, disons que la question des taxes, la question de l'impôt, elle est à mon avis tout à fait fondamentale, puisque bien, l'impôt, c'est la construction de l'État. On voit depuis l'époque de Jeanne d'Arc, de Charles VII, la mise en place d'un impôt royal régulier, c'est ce qui a structuré l'État français, puisqu'il faut l'impôt pour payer la force, l'armée, et réciproquement, etc. Donc c'est à partir, et on voit bien qu'à partir de ce moment-là, on peut parler de royaume de France, donc on est au XVe siècle, et c'est aussi à partir de ce moment-là,
quand l'impôt est là,
c'est tout à fait décisif. Il n'y a pas d'État sans impôt, et donc ça, c'est ce qui crée au départ un lien, qui est un lien, je dirais, de suggestion au départ, hein, avec l'ensemble des Français, et les révoltes aussi antifiscales ont été extrêmement importantes dans l'histoire de France, y compris bien avant la Révolution française. On peut même dire qu'elles étaient beaucoup plus importantes dans l'Ancien Régime. Elles pouvaient être contre les seigneurs ou contre le roi, mais...
À l'époque, c'était un impôt qui était perçu, oui, par les seigneurs, oui. Était lié aux produits qu'on fabriquait. J'étais étonné de lire, par exemple, on était à Brignoles en reportage, nous, Europe 1, il y a eu une révolte à Brignoles contre la famille qui collectait l'impôt sur le cuir. Et les ouvriers des tanneries vont envahir la maison du percepteur.
Oui, alors voilà, il y a les collecteurs d'impôts. Enfin, c'est très compliqué dans le fonctionnement de l'Ancien Régime, hein, puisqu'il n'y a pas cette tradition d'une bureaucratie au service de l'État, etc. Donc c'est multiple les formes de révolte contre l'impôt, il y a la gabelle, il y a toute une série de choses, mais globalement on s'aperçoit que les grandes révoltes sont souvent organisées, naissent souvent lorsqu'un impôt nouveau est imposé donc aux paysans surtout. Et ça génère donc de la violence.
Et donc
à
une forme de France périphérique, si on veut revenir.
Oui, c'est ça, bien qu'à l'époque, les paysans constituaient l'immense majorité de la population.
Alors, également, il ne faut pas oublier sur cette question de l'impôt, Michel Pinet, Déclaration universelle des droits de l'homme, 1789, on est là pour valider le consentement à l'impôt, mais un impôt mieux réparti. Parce que quand on compare gilets jaunes sans culottes, il ne faut pas oublier ça.
Un impôt qui devient une contribution. Voilà. C'est-à-dire, on fait partie de la nation et on aide à la construction de l'État qui rassemble la nation par le financement d'impôts à proportion de sa richesse, à proportion de ses revenus. Alors, il y a toute une histoire de l'impôt. Il faut se souvenir que l'impôt sur le revenu ne date que de 1914 et qu'en fait, il sera appliqué qu'après la Première Guerre mondiale. Et que l'impôt sur la fortune, qui a beaucoup focalisé, ne date que des années 1980. Et qu'il a été interrompu, puis rétabli sous diverses modalités. Et au fond, il y a la question, non seulement on contribue à la construction d'un État qui doit, lui, restituer, d'un État qui n'est plus un État prédateur, mais un État organisateur collectif, un État dont les effets se traduisent par des routes que l'on construit, par des écoles que l'on dresse dans les communes, par toute une série de services que seul l'État est en mesure de mettre en œuvre. Donc, il y a un retour, en quelque sorte, de ce que l'on paie. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la justice fiscale. Et l'idée d'un impôt... et c'est vrai que la France est un pays quand même où, du point de vue de la fiscalité, c'est encore toujours vrai, la part des impôts indirects est considérable, beaucoup plus importante que la part des impôts directs, du type impôt sur le revenu.
Et cette spécificité française a été à l'origine... Alors, on parlait de 89, mais... a duré dans l'histoire un petit peu 19e, 20e également, Gérard Noiriel, cette contestation et cette lutte contre une fracture sociale et un manque de redistribution.
Oui, c'est un élément important, même si c'est peut-être atténué lorsque le mouvement ouvrier s'est constitué, donc à partir de la fin du XIXe siècle, il y a la revendication salariale, ou les rapports de pouvoir au sein de l'entreprise, donc il y a eu une évolution, justement, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire on est revenu peut-être avec les gilets jaunes à une période antérieure à ce qui avait été structuré comme revendication sociale par
le mouvement
ouvrier.
Même si ça peut nous renvoyer à 1936 aussi, peut-être, aux grandes grève de 47 aussi.
Oui. Mais en 36, c'est pas centralement une révolte antifiscale. C'est donc des grèves qui aboutissent, vont aux accords de Matignon, les 40 heures, les congés payés, etc. Donc c'est vraiment une révolte centrée sur l'usine, l'entreprise, par des ouvriers d'entreprise. Au départ, la fraction la plus qualifiée, qui se généralise après à l'ensemble des ouvriers. Mais on a là une tradition, justement. C'est ça qui est intéressant si on veut comparer avec les Gilets jaunes.
Allez-y.
Parce que c'était les salariés des entreprises qui sont au cœur de du Front populaire. Hein. Et je dirais, c'est jamais l'ensemble des classes populaires. C'est ça qui est important. Et encore, on pourrait en parler dans les formes de division qui ont pu éclater ou apparaître dans le mouvement des Gilets jaunes. On a deux grandes composantes, la composante salariée, les ouvriers d'entreprise, et puis les petits patrons, les petits propriétaires, les paysans. Pendant longtemps, ça a été une composante très importante des classes populaires en France. Parce que la caractéristique de la France comparé avec, par exemple, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, c'est justement la faiblesse, qu'on pourrait dire, de l'ouvriérisation. C'est-à-dire la capacité de la paysannerie, notamment, à résister à l'exode rural et à la prolétarisation. Ce qui fait qu'on a eu toujours, jusqu'au moins dans les années 50, une très forte composante paysanne dans les classes populaires en France, et aussi ce qu'on appelait les indépendants, qui étaient statistiquement très nombreux.
Et là, ça renvoie au poujadisme des années 50,
voilà,
justement.
Voilà,
oui.
Voilà, c'est ça. Mais on a une sorte... On peut se demander si on n'a pas un retour de cette logique-là, puisque ceux qui ont été au cœur du mouvement des Gilets jaunes, ce n'étaient pas les ouvriers d'usines. Ça ne s'est pas passé dans l'usine, ça s'est passé autour des ronds-points. Donc, il y a toute une évolution là qui est intéressante.
Qui est intéressante et qu'on va continuer à décrypter, puisque Marlène, on fait le tour de la question. L'histoire, pour mieux comprendre le présent, c'est le thème de notre émission aujourd'hui.
Autour des Gilets jaunes, et vous pouvez intervenir sur notre antenne pour réagir à ce qui a été dit, notamment en composant le 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, ou encore sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 si vous préférez, hein, ça c'est sur Twitter. Il y a aussi la page Facebook d'Europe 1 et on les lit tous. Le regard de deux historiens sur les Gilets jaunes avec nous ce matin sur Europe 1 et avec François Claus. On va continuer à faire le tour de la question après Téléphone New York avec toi et c'est sur Europe 1.
Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, ne voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel des se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque autre rat. Voici le cœur de la vie dans toi. Et tu m'emmèneras. J'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera. Que nulle part, c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour. Que la vie part en toi. Et tu m'emmèneras. Un jour mène-moi. Un jour aussi toucher à ça. Voici le cœur de la vie.
De retour de New York, c'était Téléphone à l'instant sur Europe 1. Europe 1. Et si vous venez de nous rejoindre, il est 10h22, on parle des Gilets jaunes, mais du point de vue des historiens, l'histoire pour mieux comprendre le présent, vous disiez François Claus tout à l'heure, jusqu'à 11h, on fait le tour de la question avec Gérard Noiriel, historien bien sûr, spécialiste de l'histoire populaire, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1.
Et Marlène, on évoquait donc la
pertinence ou pas dans l'histoire de cette revendication à plus d'égalité, le rapport des Français sociaux, d'égalité sociale, et le rapport des Français à l'impôt. Très vite, pourtant, le mouvement des Gilets jaunes a basculé dans autre chose.
Que ce soit le peuple qui ait la parole et qui pose les bonnes questions. C'est vraiment à tous les Français de se poser la question de ce qui est vraiment prioritaire. Et là, avec toutes les assemblées citoyennes, on verrait vraiment ce qui sort le plus possible au niveau des réclamations. Et là, on mettrait ça certainement en place, la première question, le premier référendum, quoi, dans ces cas-là. On aurait vraiment abrogé, modifié n'importe quelle loi et n'importe quel traité.
Pouvoir proposer des lois aussi ?
Aussi, oui, également, oui. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et au moins, ça regrouperait toutes les revendications qu'il y a dans la liste des Gilets jaunes.
C'est un témoignage recueilli par le reporter d'Europe 1, Théo Manval, Michel Pigenet. La parole au peuple, on veut participer à la démocratie, c'est même peut-être la définition de la démocratie, mais la parole confisquée, la parole perdue, là on est très clairement dans une constante historique aussi.
Qui est ce que j'appelle avec d'autres une politique populaire, c'est-à-dire il faut bien voir que le rapport des classes populaires à la politique est un rapport distendu. Le monde de la politique instituée ou institutionnelle n'est pas en adéquation avec les cultures populaires.
C'est même un si monde on dit de... toujours les Français sont passionnés de politique. Vous allez boire l'apéro, on parle politique, les dîners de famille, le réveillon ce soir, la politique sera là au cœur des
échanges. La Révolution
échanges.
Française est passée par là et tout ce qui a suivi après. Hein, c'est la Révolution française, elle a été révolution à partir du moment où les classes populaires s'en sont mêlées, de la paysannerie aux artisans. Quand ils sont allés chercher le roi à Versailles, quand ils ont envahi les Tuileries, ils ont fait basculer la politique du domaine des élites au domaine du peuple. Et du coup, ils ont aussi posé leurs aspirations. Et donc, il y a une tradition, un fil rouge qui traverse l'histoire depuis la Révolution française, qui est celle de cette politique populaire, en opposition à la politique instituée, c'est-à-dire une politique en acte, une politique immédiate, une politique de la proximité. Et donc, toutes les fois qu'on a des mobilisations populaires, on voit ressurgir cela. C'était déjà le cas des sans-culottes de 1791-94, qui réclamaient la démocratie directe, qui réclamaient le mandat impératif, qui réclamaient la possibilité de révoquer les élus, qui et la possibilité pour le peuple de faire les lois. On le retrouve sous la Commune de Paris et on le retrouve en ligne permanente toutes les fois qu'il y a des mobilisations. Cette aspiration à une autre politique, à une politique qui soit le moins possible indirecte.
Gérard Noiriel, cette revendication qui perdure dans l'histoire de France, chaque fois le pouvoir en place la reçoit et est obligé de s'adapter. Même si les gains, on regarde l'histoire, ne sont pas immédiats, il y a eu de grands acquis dans l'histoire de France liés à cette revendication que Michel Pigenet nous décrivait à l'instant.
Oui, il y a une contradiction, je dirais, majeure, c'est que on est dans un État national, donc la délégation, elle est obligatoire. Ce sont des débats qui sont posés dès la Révolution française, et c'est aussi une question de clivage social, je dirais, les compétences qu'il faut avoir pour diriger un pays, pour animer une vie politique, évidemment, nécessitent d'un certain nombre
de déléguer,
c'est des dossiers compliqués, la politique, etc. C'est pour ça que les classes populaires veulent mettre en avant leurs propres compétences, leur propre culture. Effectivement, l'action directe sur des problèmes concrets qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, etc. Donc il y a une tension constante, ce qui fait que les aspirations à la démocratie directe qui s'expriment dans les mouvements de lutte n'aboutissent jamais complètement. C'est-à-dire, on a toujours après, donc les mouvements se disparaissent et puis donc les choses rentrent dans l'ordre, comme on dit. Mais malgré tout, effectivement, il y a des traductions dans le champ politique
classique. Si on regarde l'histoire, 1870, on arrive à la Troisième République.
Oui.
1848,
oui.
On arrive au suffrage universel,
c'est
quand
ça,
même.
C'est donc, une des premières, oui. C'est une des pre- euh, le, la révolution de février 48, la première, le gouvernement provisoire, la première mesure qu'il prend, c'est justement le suffrage universel masculin. Donc c'est un acquis sur lequel on est encore aujourd'hui, même si après il y aura, bon, enfin, on va pas entrer dans les détails, mais enfin, malgré tout, il y a effectivement là une traduction institutionnelle. La révolution elle-même est une traduction institutionnelle par la fin de la monarchie et le remplacement par la République.
Même s'il faudra un siècle pour qu'elle arrive et qu'elle soit totalement installée. Et Michel Pigenet, ça veut dire que la réponse institutionnelle attendue, en partie d'ailleurs peut-être ce soir avec les vœux, ou dans les prochains jours ou les prochains mois, le régime en place, fut-il démocratie, fut-il 5e République, va être obligé d'évoluer.
Je crois qu'il y a... Alors ça ne remonte pas à 18 mois, ça ne remonte pas à Macron. Je crois qu'on est quand même dans une 5e République qui est à bout de souffle. Qui est à bout de souffle parce que la personnalisation du pouvoir, la présidentialisation, au-delà d'ailleurs de ce que prévoit elle-même la Constitution, a détaché largement, malgré l'élection présidentielle, ou peut-être à cause de l'élection présidentielle, les hommes qui exercent le pouvoir de la population. Et c'est ce que l'on revoit. Alors effectivement, il y a eu, avec le cas Macron, une accentuation, alors que la personne elle-même n'avait pas un parcours qui l'ait formé
a priori,
pour ce genre d'événement, a sans doute porté un coup, je crois, fondamental, quels que soient les discours, quels que soient les propositions qui seront faites, il y a, me semble-t-il, des institutions qui sont à bout de souffle.
Merci pour ces explications. On continue à faire le tour de la question.
Et oui, n'hésitez pas d'ailleurs à intervenir en direct sur notre antenne au 3921. Vous avez peut-être des questions à poser à nos invités. 3921, 50 centimes la minute. Et puis il y a aussi vos commentaires que l'on lira sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 10h30, peut-on comparer les Gilets jaunes aux autres révoltes de l'histoire? On fait le tour de la question avec vous, François Claus, et avec vos invités.
Et on a basculé de cette révolte sociale à cette demande de prise de parole, dont on voit que c'est une constante dans l'histoire des mouvements sociaux français, qui oblige le pouvoir central à réagir. Quand Michel Pigenet parle de République à bout de souffle, de 5e République à bout de souffle, c'est finalement ces pansements qu'on a mis au fur et à mesure de 1958 à aujourd'hui, qui, Gérard Noiriel, sont à l'arrivée de expriment cette fracture politique que nous vivons aujourd'hui.
Oui, je crois que c'est évident qu'il y a une aggravation de la situation qui s'est traduite avant le mouvement des Gilets jaunes déjà par la montée de l'abstention. On sait que chez les ouvriers, par exemple, on arrive à des taux d'abstention qui peuvent être de 30, voire 40%. Le premier parti ouvrier, ce n'est pas le Front National, comme on dit, mais c'est l'abstention.
Donc, j'ajoute ça, c'est également, quand même... on a peut-être oublié un peu, 4 millions de bulletins blancs. C'est-à-dire de gens qui sont allés voter, mais en disant on ne veut pas de cette offre-là.
C'est ça. Tout ça, c'est des signes quand même extrêmement importants qui prouvent la distance qui est prise par le peuple français avec la logique institutionnelle dominante aujourd'hui.
Oui. Et quand le peuple français, Michel Pigenet, ne se reconnaît plus dans ses institutions, il se rebelle.
Oui. D'ailleurs, la Constitution de 1793 le prévoyait. Oui. Hein, si le pouvoir, de mémoire comme ça, je vous le cite, viole les droits du peuple, le droit à l'insurrection est un devoir.
Donc, droit à l'insurrection.
Oui, le droit à l'insurrection. Cette Constitution n'a jamais été appliquée.
Oui, la de Paris aussi.
Je vous rassure tout de suite, mais le fait est que c'est quand même ça. Et là, effectivement, on est bien enraciné dans des héritages, alors qui ne sont pas forcément transmis littéralement comme cela, mais il y a en effet une culture. Si ceux d'en haut ne nous écoutent pas, nous allons nous faire entendre. D'une manière ou d'une autre.
Et ces transformations institutionnelles sont évidemment difficiles à mettre en place, compte tenu d'un côté de l'urgence des revendications du moment et du temps nécessaire à la République ou à la démocratie pour s'adapter, Gérard Noiriel.
Oui, effectivement, mais il y a aussi, je dirais, regardez aujourd'hui que dans la Chambre des députés, vous avez zéro ouvrier. Les ouvriers représentent 20% de la population active. Il n'y en a pas un seul qui soit... Donc il y a une crise sociale aussi dans la représentation sociale. Donc effectivement, là, ça passe par toute une série, je pense, de mise à plat. Hein. On a quand même aussi beaucoup de travaux, nous-mêmes, enfin les chercheurs en sciences sociales ont produit beaucoup d'analyses pour déjà établir ce constat-là. Et puis ensuite, voilà, il faut un travail de démocratique, d'expression populaire visant à faire un bilan déjà et puis à faire des propositions qui puissent être crédibles. Ce n'est pas forcément celles qui sont avancées aujourd'hui d'ailleurs, mais on y reparlera peut-être tout à l'heure.
Non, mais allez-y.
Non, sur les référendums ne sont pas forcément la meilleure solution pour faire en sorte que les classes populaires puissent s'exprimer et compter dans la vie politique d'un pays.
Michel Pigenet.
Vous savez, on a prêté, alors là je renvoie à 2017, on a prêté à Emmanuel Macron l'idée qu'il avait réalisé le casse du siècle. Alors, avec un deuxième tour qui n'était pas une adhésion à son programme, mais qui était un rejet d'une autre candidate. Mais bien mal acquis ne profite jamais. Et au fond, c'est ce que l'on voit là. C'est ce que, au fond, Emmanuel Macron peut expliquer qu'il est légitime, incontestablement, il a été élu. Sur son programme, c'est une autre histoire. Et c'est ce que l'on vérifie là, actuellement. Et alors, c'est tout à fait étonnant parce que, effectivement, ces classes populaires dont on disait elles s'abstiennent ou elles votent populiste, ce qui est souvent péjoratif, évidemment, eh bien, d'un coup, elles parlent et finalement, quand même, quand on les écoute. Alors sans doute, il y a de l'écume, ça peut partir dans tous les sens, mais il me semble qu'en quelques semaines, ces gens qu'on disait sans culture politique et tout, ils expriment des idées et il y a une réelle cohérence à tel point que et des journalistes et des chercheurs et des hommes politiques professionnels sont parfois un peu dépassés.
Et cette cohérence qui s'exprime pourtant dans un ensemble incohérent, en tout cas qui ne répond pas à nos grilles de lecture habituelles, Gérard Noriel, c'est l'une des clés du mouvement d'aujourd'hui.
Oui, je crois que ça a frappé, je dirais, de voir surgir comme ça des porte-paroles qu'on ne connaissait pas, qui sortent de l'anonymat et qui...
On a été médias, nous, débordés par ce mouvement aussi.
La capacité de s'exprimer, de faire face aux médias, par exemple. Donc, ça a révélé le potentiel d'intelligence collective qui existe aujourd'hui dans le peuple français et qui explique aussi la frustration. Il y a une élévation aussi du niveau culturel, scolaire. On le sait, la France est un des pays de l'OCDE où le niveau scolaire a le plus évolué, avec les 80% d'une génération au bac, etc. Et toutes ces capacités-là, elles ne sont pas utilisées par le pouvoir politique. Et on a même vu, effectivement, la stratégie de Noël Macron, ça a été même de contourner ce qui restait encore de corps intermédiaire, etc. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, alors c'est facile de le dire après, hein, je veux dire, mais ça ne paraît pas finalement très surprenant que ce mouvement ait éclaté.
Alors, nous avons évoqué plus d'égalité sociale, plus de justice politique, mais... Et la fraternité, on va en parler dans un instant.
Les Gilets jaunes vont-ils entrer dans l'histoire? Vous pouvez intervenir à tout moment. Il y a certainement des passionnés, des amoureux d'histoire qui nous écoutent sur Europe 1 ce matin. Jusqu'à 11h, on fait le tour de la question. 39-21 si vous souhaitez intervenir. 50 centimes la minute, c'est le standard d'Europe 1. Et bien sûr, les réseaux sociaux, la page Facebook d'Europe 1 et Twitter. Hashtag Europe 1. Les Gilets jaunes sont-ils comparables aux autres révoltes de l'histoire? On fait le tour de la question jusqu'à 11h avec vous, François Claus, et avec vos invités. Ils sont avec nous, Gérard Noiriel, historien spécialiste de l'histoire populaire, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1.
À défaut d'être comparables, ce que sont un petit peu, Marlène, les fils conducteurs de l'histoire de France, qui sont parfois donc en continuité, parfois en rupture, on l'a vu, il y a des éléments qui renvoient au passé, d'autres qui sont un peu plus inédits. Je vous propose, messieurs, d'écouter ce qu'on entendait aussi beaucoup sur les fameux ronds-points.
Les gens qui sont ici ont besoin de fraternité, ont besoin de convivialité, ont besoin d'amour. Tout ce qui s'est perdu, c'est pas une connerie, c'est tout un système, ça vient pas de Macron. C'était en ébullition et puis ça a explosé.
Alors cette phrase-là, assez forte, recueillie sur un barrage dans le sud de la France par notre correspondante Nathalie Chevance, nous renvoie quand même à ce besoin d'être ensemble, ce besoin qui n'était peut-être pas finalement formulé avant le mouvement, mais qui est né sur ces fameux ronds-points. Les ronds-points, on a envie de dire, sont devenus presque un lieu d'échange, là où on n'a plus suffisamment, Michel Pigenet, dans notre monde, de lieux d'échange, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes à l'heure des réseaux sociaux et de la mondialisation des échanges.
Ce sont devenus des forums. ce sont devenus des forums où, d'ailleurs, il y a des gens qui restent en permanence, et puis il y en a eu... Alors, bon, maintenant, c'est en train de s'effilocher, en tout cas pour cette période des fêtes, mais on voyait qu'il y avait aussi toute une gamme de participation. Ceux qui y étaient quasiment tous les jours, ceux qui venaient le samedi, ceux qui s'arrêtaient un moment et repartaient. Donc, il y a eu un échange beaucoup plus large que le simple chiffrage qu'on pouvait faire chaque samedi soir des manifestations qu'il pouvait y avoir. Mais indéniablement, et là, moi, je pense que Gérard Noyer a sans doute la même impression, ça nous rappelle d'autres expériences de solidarité et de fraternité qui sont celles des grèves ouvrières où, en quelques jours, dans un mouvement, quand il est ample, eh bien, on se redécouvre, on redécouvre son lieu de travail, on discute avec des gens auxquels on ne parlait pas jusqu'à présent et on
C'était
se trouve
particulièrement
des
frappant
points communs.
Lorsqu'on a découvert qu'il y avait, un, beaucoup de femmes, deux, beaucoup de retraités sur ces barrages, qui sont deux catégories qu'on ne voyait pas forcément en première ligne des mouvements sociaux.
Alors, dans le cas des femmes, ce qu'on a vu, c'est qu'elles ont aussi pris la parole. Et ça, par rapport, en effet, aux structures syndicales et autres, c'est sans doute plus récent. La présence des retraités, elle est intéressante parce que là, effectivement, ils sortent de l'oubli dans lequel ils étaient cantonnés. Et puis, c'est vrai qu'on a vu émerger des gens qui n'avaient jamais manifesté leur vie. Une des caractéristiques, c'est des gens qui étaient en dehors. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne suivaient pas les mobilisations sociales. Parce qu'il me semble que quand on regarde de près et les formes d'organisation, les formes de lutte qui ont été choisies, il y a des choses qui sont directement inspirées de mobilisations sociales, classiques, syndicales et autres, y compris dans les mots d'ordre d'ailleurs, même s'ils ne les veulent pas.
Vous pensez à quoi là, particulièrement ?
Pardon ?
Vous pensez à quoi particulièrement ?
Ah, là, je pense, par exemple, au
la
blocage...
La fête de l'UMA...
Je parlais de tactique. Pense, par exemple, au blocage des raffineries de pétrole, au blocage des plateformes logistiques. Là, on est dans un savoir-faire qui est plus un savoir-faire syndical. Même s'il est repris par des gens qui n'ont jamais eu d'appartenance syndicale, ni même sans doute d'activité syndicale. On apprend très vite dans ces moments-là. Alors, du côté de la fraternité, là aussi, indéniablement, ce sont des choses que... Et alors, ces gens viennent de loin. Ils viennent de loin de ce point de vue, parce qu'en effet, on a souligné leur caractère périphérique. Ils sont à la périphérie des villes, ils sont à la périphérie des groupes sociaux dominants, ils sont à la périphérie des syndicats aussi. La plupart des zones où ce se sont produits sont des déserts syndicaux. Et donc, ils ne veulent pas entendre parler des syndicats, parce qu'ils n'ont jamais eu de contact avec des syndicats, ou très épisodiques, ou par des intermédiaires.
Ce besoin de fraternité, où finalement on se retrouve autour d'un même combat, nous renvoie aux images un peu sépia, peut-être, du Front Populaire, nous renvoie peut-être également, même si le mouvement n'avait rien à voir à mai 68, où le besoin d'un autre monde où on se parlerait et où on vivrait différemment était très fort.
Oui, mais même on pourrait remonter plus loin. La révolution de 1848, c'est le mot fraternité avait une importance extrême dans cette révolution. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a aussi des contradictions. Faut pas les oublier.
Mais on est là pour les décrypter justement, et éviter d'aller vers des raccourcis trop faciles.
C'est toujours dans l'histoire, malheureusement, c'est le eux et nous. Il y a toujours la construction d'un groupe, d'un nous, mais il y a aussi des gens qui sont pas d'accord, qui sont opposés, etc. Dans le mouvement des Gilets jaunes, on a vu aussi le clivage entre bloqueurs et bloqués, qui a une certaine importance. Et puis, il y a aussi une fraction des classes populaires qui n'est pas vraiment présente, ceux qui sont
ce qu'on appelle les quartiers.
Issus de l'immigration, etc. Et un des enjeux majeurs dans l'histoire des mouvements populaires, c'est la capacité du mouvement à évoluer, à élargir ce nous pour intégrer des fractions des classes populaires qui n'étaient pas dans le mouvement au départ. Je crois que c'est un des enjeux aussi de ce mouvement-là qui va déterminer son avenir.
Derrière la notion de fraternité, Michel Pigenet, c'est aussi un combat, et là qui est un des grands classiques de l'histoire sociale française, une demande à une forme de dignité.
Là, c'est évident. Alors, c'est le propre de toutes les mobilisations des classes dominées. Elles sont dominées aussi par le mépris que les dominants ont à leur égard.
Et là, on renvoie à quelle période d'histoire ? Allez-y.
Oh ben, là, on renvoie à de multiples époques. Les sans-culottes, l'expression sans culotte est au départ une expression péjorative.
Comme hein. gilet jaune un peu.
Ah ben, mais on en parlait tout à l'heure en aparté. Ce qui est intéressant, c'est que la carmagnole, la fameuse carmagnole, dansons les carmagnoles, c'est un gilet. Et c'est un gilet que portaient les sans-culottes et dont la simplicité était symbole d'égalité. Et donc, d'une certaine façon, sans le savoir, sans doute, les gilets jaunes ont retrouvé cette tradition. Alors, je pense que le gilet jaune avait aussi une valeur symbolique et une visibilité. Ça, c'est un trait de génie d'avoir trouvé cet élément fédérateur.
Et de faire du jaune, comme le disent les historiens des couleurs, une couleur populaire, là, elle était la plus mal aimée jusque-là des Français en termes de couleurs.
Dans les mobilisations sociales, les jaunes, c'était les traîtres.
Les jaunards, voilà. Oui, bien sûr. Courte pause et on va partir pour la dernière partie de Marlène.
Oui, ça va vite. On fait le tour de la question jusqu'à 11h.
Et vous allez voir, on va parler un petit peu aussi de géographie, de territoire. Ah. Est-ce que finalement, campagne et ville ont toujours été unis ou au contraire opposés dans cette histoire des mouvements sociaux?
Et on continue à lire vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Restez avec nous. Europe 1. Gilets jaunes, peut-on les comparer aux autres révoltes de l'histoire? On fait le tour de la question ce matin avec vous, François Claus, et vos invités.
Oui, on a évoqué les fractures sociales, les fractures politiques qui ont marqué l'histoire sociale française avec des différences, avec également des points de convergence entre les grands mouvements de l'histoire et celui d'aujourd'hui. On évoque beaucoup et la fracture territoriale également, et on voyait cette fameuse France dite périphérique. Est-ce que c'est Gérard Noiriel, campagne contre ville ou campagne avec ville, contre pouvoir, sur cette équation que beaucoup des mouvements sociaux français se sont joués?
Ça a été discuté, hein, la question de la France périphérique, enfin définie par des territoires. Il y a effectivement une dimension tout à fait réelle, puisqu'on voit bien, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'usage de l'impôt, à quoi sert l'impôt, que lorsque les gens sont amenés à payer davantage d'impôts et qu'en même temps ils voient disparaître des services publics, évidemment, ça stimule leur colère par le fait. Donc ça, c'est une réalité donc, qui peut expliquer que la mobilisation soit développée tout particulièrement dans ces endroits-là. Mais la notion de périphérie, de marginalité, elle est surtout sociale. Elle peut se trouver également dans les villes. Moi, je pense qu'il faut être prudent par rapport à cette définition purement territoriale ou géographique du mouvement.
Après, ce qui est frappant, Michel Pigenet, c'est que 1789, on est plutôt au petit peuple de Paris, et ensuite province qui monte à Paris. Là, on a la province qui monte contre Paris, où Paris est finalement la révolte intra-parisienne, y compris dans les quartiers populaires de Paris, a été quasi inexistante. C'est la province qui est montée à Paris.
Le mouvement, mais ça c'est quelque chose qu'on note déjà depuis pas mal de temps, les mobilisations sociales, gilets jaunes ou pas, celles qui ont été d'ampleur, ont d'abord été des mobilisations nationales et peut-être parfois plus fortes proportionnellement en province qu'elle ne l'était dans la région parisienne.
Alors là, on peut rappeler Bonnet Rouge,
Les Bonnets Rouges, mais même 1995. Le mouvement, proportionnellement, était plus ample en province. Et même contre la loi El Khomri, contre la réforme du Code du Travail, les mobilisations étaient proportionnellement plus importantes en province qu'elles ne l'étaient à Paris. Bon, de ce côté-là, le rapport Paris et la composition sociale de Paris n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans, et à plus forte raison si on remonte dans le temps. Alors, campagne, ville, ça ne marche pas. Si tant est que ça ait marché, ça a pu fonctionner parfois, mais parce que, comme
j'ai
le disais...
J'ai presque envie de dire plutôt province-Paris, parce que là, on montait à Paris contre le pouvoir central, avec une ville de Paris qui, elle, perd ses habitants, on l'a vu, je parle de Paris-Centre, et une ville de Paris qui est plus le siège du pouvoir. D'ailleurs, on a manifesté plus sur les Champs-Élysées que dans le 19e ou le 20e à Paris.
On a manifesté là où était, où on a essayé de s'approcher des lieux du pouvoir politique et aussi des lieux du luxe. Et ça, effectivement, jusque-là, les Champs-Élysées étaient mobilisés quand il y avait des mobilisations pour des manifestations d'ordre, de rétablissement.
Voir la fin de mai 68 avec un million de manifestants.
Le 30 mai, par exemple. Et là, au contraire, Paris, même dans ces moments, a été effectivement une grande visibilité par les lieux où ça se passait, mais le gros du mouvement se passait ailleurs. Et j'ajoute ensuite, alors il y a ceux qui ont vraiment revêtu un gilet jaune, mais ce qui était très étonnant, c'est que même quand il y a eu violence, et même quand il y a eu possibilité d'un usage de ces images, de sa violence, pour provoquer un réflexe d'ordre, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est une des grandes surprises de ce mouvement. Au fond, le soutien ou la compréhension, ce qui n'est pas tout à fait la même chose à l'égard des Gilets jaunes, n'a pas beaucoup fléchi malgré les images de violence et d'une violence qui symbolisait sur les Champs-Élysées ou entour était sans doute pas forcément plus forte qu'à d'autres moments, mais en ces lieux, oui.
Pour le symbole, disiez-vous Gérard Noiriel, cette violence stigmatisée le 1er décembre finalement, peut-être, même si n'oublions pas, il y a eu 10 morts dans ce mouvement, cette violence, est-ce qu'elle a fait progresser les luttes sociales dans l'histoire ?
Mais disons que, effectivement, si on se replace sur la longue durée, on s'aperçoit que la violence a toujours été extrêmement importante dans les mouvements sociaux, qu'il y a plutôt une tendance à la pacification sur le long terme. Mais il y a un usage, effectivement, aussi de la violence, c'est-à-dire un usage aujourd'hui qui est un usage médiatique, c'est-à-dire voilà, faire du spectaculaire, etc. Et puis un usage politique pour discréditer un mouvement, effectivement, jusqu'ici, c'est pas nouveau. Hein. Quand on montrait des manifestants violents, ça discréditait le mouvement aux yeux de l'opinion. Et c'est effectivement le changement qui s'est produit, c'est que cet effet-là n'a pas vraiment eu lieu puisque les Gilets jaunes continuent à avoir une popularité. Donc là, je pense qu'on est aussi dans ces transformations dont je parlais tout à l'heure de nos démocraties, on est dans une nouvelle logique aussi par rapport à la gestion même de la violence, avec cet effet aussi que les gens se disent finalement Macron il a cédé pourquoi ? Parce que, justement, on a exacerbé cette violence et beaucoup de gens se disent ben, manifester pacifiquement, faire grève un jour, etc., ça ne sert à rien. Regardez la lutte des cheminots, hein, le combat des cheminots. Eh bien, pour le statut qui a échoué, je dirais, eh bien, donc ça, on a entendu beaucoup ça, des gens dire, eh bien oui, finalement, on sait comment on va faire la prochaine fois, on va occuper les ronds-points. Et là, peut-être que ça crée un précédent, effectivement, qui va se répandre ensuite dans les formes de lutte parce qu'il y a une sorte, je dirais, de mise en valeur, d'exacerbation, de visibilité donnée à la violence, d'exagération parfois, parce que, sans nier ces dégradations, j'ai entendu parfois journaliste parler de carnage, le mot carnage pour des dégradations de vitrines. Je veux dire, là, même prenez le dictionnaire, carnage, ça veut dire tuer des hommes ou des animaux.
On rappelle
dire,
en 1907, Clémenceau, pour mater une révolte viticole dans le Sud, il fusille. Hein.
Voilà, c'est ça, même le 17 octobre 61, il y a des précédents.
D'où une forme de spécificité. C'est la conclusion finalement à laquelle il est incontournable d'arriver. Oui, les Gilets jaunes, on peut trouver des marqueurs dans l'histoire, mais oui, c'est un mouvement unique et c'est ce qui est passionnant et qui est un mouvement, on l'a compris, reflet de notre époque, d'une république, d'une démocratie en difficulté et peut-être aussi d'une forme de mouvement de révolte lié à la révolution numérique dans la manière de mobiliser et de l'exprimer. Ça a été passionnant, messieurs, de passer cette heure avec vous. Je vous remercie, Gérard Noiriel. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'histoire populaire. On va lire donc encore plus vos études aujourd'hui. On a entrouvert des portes, vous les suivrez. Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1. On va pas dire qu'on a fait le tour de la question, mais on a tenté de le faire, Marlène. Et on se retrouve demain, même heure,
demain,
9h-11h.
9h-11h, on a fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
On parlera des soldes, on parlera des jeux de société. Énorme surprise, voilà que les jeux de société reviennent à l'heure des jeux vidéo. Ce sera le tour de la question demain.